tous. Après le pessimisme de l'accélération, l'optimisme de la résonance. Quelle relation aux autres dans la société moderne. Plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des hauts représentants de l'école de Francfort, le philosophe et sociologue Armut Rosa, pour son nouvel essai « Résonance, une sociologie de la relation au monde » qui paraît à la découverte. Il sera avec nous après le journal de Thomas Cluzel à partir de 12h55. Mais d'abord, « Femme détenue dans les impatientes », diffusée ce soir sur France 2, prix d'interprétation féminine pour ce rôle au dernier festival de La Rochelle. Citoyenne dans Un peuple et son roi de Pierre Scheler à l'affiche aujourd'hui, la comédienne multiplie les rôles premier ou second. Scénariste et réalisatrice, elle nous attend séduit avec Camille Redouble et Demain et tous les autres jours qu'on attend son retour impatiemment derrière la caméra. Noémie Lvovsky est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Madame Girard, le rapport de police, tout comme les caméras de surveillance, montre que vous étiez sur place depuis près de 20 minutes. Vous aviez déjà décidé ce que vous alliez faire ? Madame Girard, nous parlons de préméditation des faits d'une extrême gravité. Vous avez conscience que votre silence ne vous aide pas ? Madame Girard, vous m'entendez ?
Oui, monsieur le juge.
Madame Girard, je vous place sous mandat de dépôt en détention provisoire pour tentative d'homicide volontaire.
Dans les impatientes, ces fleurs qui poussent à l'ombre les racines dans le bitume, elle est Maud Girard, incarcérée pour avoir tenté de tuer l'homme qui a pris la vie de sa fille dans un accident. En prison, elle sort de l'isolement, découvre la solidarité dans l'enfermement et ça donne donc ça. Vous venez d'en avoir un extrait, les portes de la prison qui s'ouvrent et se referment sur elle. Bonjour Noémie Lvovsky.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au croisement de ces deux films. Le Pierre Scheler que j'évoquais en introduction, Un peuple et son roi sur la Révolution et ses suites. Au croisement de ces deux films et téléfilms, il y a le beau mot de liberté. Où placez-vous la vôtre ? Qu'est-ce que c'est être une femme libre pour vous aujourd'hui ?
Oh là là ! je sais pas vous répondre à ça. J'ai l'impression que la liberté, on la cherche tout le temps, on la cherche partout. C'est Tchekhov qui disait que, je crois, hein, je suis sans doute déformée. Mais c'est Tchekhov qui disait que le but de sa vie était de ne pas être un esclave.
Et ça, ça se joue dans les...
C'est de la nôtre, ouais. J'imagine.
Ça se joue autant dans les têtes, finalement, que dans les corps.
Oui.
Cette liberté-là.
Ouais.
On dit souvent « aimable comme une porte de prison ». Ces deux portes en fer, solides, des prisons qui se referment, y compris dans ce téléfilm « Les impatientes sur l'héroïne » que vous incarnez, Maud Girard. Vous avez-vous travaillé sur ce son ? Sur cette masse, dès vos premières années, quand vous entrez à la FEMIS, l'IDEC à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Qu'est-ce que ça symbolise, deux portes de prison qui se referment ?
Ah, vous savez ça ? Vous savez que j'ai travaillé sur les portes de prison ?
On sait tout aujourd'hui.
Quand je préparais le concours de la FEMIS, on avait un dossier à faire pour le premier tour et on nous donnait des thèmes, on nous avait donné le thème de la porte et j'avais choisi de travailler une enquête, en fait, de faire un texte documentaire autour des portes de prison. J'avais voulu entrer à Fleury-Mérogis, puis j'avais pas obtenu l'autorisation. Alors j'avais fait mon enquête autour de la prison, dans la cité de Fleury-Mérogis, et j'avais rencontré, entre autres, des serruriers. Alors quand on tournait Les impatientes, on tournait dans un lycée pendant les vacances scolaires. Donc on n'avait pas les sons. Et je me les imaginais. En jouant, je me les imaginais. Parce que j'imagine que ce sont des sons comme ça, assez violents. J'imagine que ça résonne. Et que ça, c'est tout le temps. Enfin, que ça rythme, quoi. Toutes les journées.
un lycée transformé en prison. C'est ce qui s'est passé pour les impatientes. C'est assez déprimant, ça en dit long, sur notre conception de l'éducation et de l'enfermement de nos petites et chères têtes blondes.
Non, non, je pense pas que ça en dit long. Je pense que ça, je sais pas si on obtient l'autorisation de tourner dans des vraies prisons. Et voilà, c'était les vacances scolaires.
Et ça a fait prison pour les impatientes. C'est une fiction effectivement en milieu carcéral, dans l'ambiance très particulière des prisons de femmes. Une unité de lieu pour un récit construit autour de l'entraide avec ses compagnes de cellule, une jeune délinquante et une chercheuse brillante qui est allée trop loin. Extrait.
T'envisages pas du tout de garder ?
Non. Me dis pas que t'es anti-IVG, intégriste et tout ça.
Non. Je me suis fait avorter quand j'avais 17 ans. J'ai regretté.
Attends, tu dis ça pour me faire flipper parce que ta fille est morte ?
Non, je te pose la question que n'importe quel médecin devrait te poser.
N'importe quel médecin ? N'importe quel médecin sauf moi, c'est ça ? Tu trouves pas qu'il y a une différence entre décrocher un fœtus à peine formé et tuer un bébé ?
Toi, tu dis ça.
Qu'est-ce que tu sous-entends, là ?
Rien.
Bah si, vas-y ! On t'a dit des choses sur moi, c'est ça ? Je te croyais au-dessus de ça, Maud. Enfin bon, c'est vrai que les coiffeuses, ça aime bien les potins, hein. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Je te le dis.
Hein ? Comme ça, tu sauras tout bien. J'ai travaillé 6 ans de ma vie pour mettre au point un traitement pour favoriser la fécondation. Un laboratoire m'a fait confiance, j'ai bossé comme une dingue et j'ai réussi. J'ai réussi ! Et pour des raisons de fric, j'ai accepté qu'on arrête les tests au 6e mois de grossesse. J'étais sûre de moi, j'étais ambitieuse. Trop. Et puis on a décelé des problèmes pulmonaires sur les fœtus à partir du 7e et du 8e mois. Et c'était trop tard. Plusieurs bébés sont morts-nés. Mais permettre aux femmes d'être enceintes, c'était ça. C'est ça ce que je faisais. C'était mon boulot. Maintenant, si Leïla, elle veut pas avoir de môme ici, avec un père en cavale, c'est son droit, non ?
Oui.
N'importe quelle mère peut comprendre ça.
Oui. Je te juge pas. Ni toi, Leïla. Je dis juste qu'on peut parler ensemble. Ici, on devrait être solidaires, non ?
Vous ne jugez pas dans le film, en tout cas, votre héroïne Maud Girard. Et c'est un film aussi, Les Impatientes, qui ne juge pas la place de ces femmes entre quatre murs. Il y a rien à défendre, dit-elle. Je mérite d'être condamnée à la fatalité. Qu'est-ce qui va succéder pour elle, en elle ?
Elle croit avoir tué. Et bon, je dévoile pas. Elle a peut-être pas tué. Et elle tient à être jugée. Elle tient. Et puis ensuite, elle prend goût à la prison. Bizarrement, ça j'avais du mal à le jouer. Et je me disais, mais comment on peut prendre goût à la prison ? Bon, dans le cas de Maud, c'est qu'elle a plus personne dehors et elle aime pas sa vie dehors. Elle est désespérée de sa vie dehors et elle trouve des amitiés en prison. Elle trouve une occupation et des amitiés, surtout des amitiés qui font qu'elle a alors qu'elle pourrait sortir, à la fin des 3 épisodes, elle.
Voilà, dites elle pas la fin.
Oui, d'accord. on entendait Léonie Simaga et Roxane Potrono, qui sont mes deux partenaires.
Elle retrouve petit à petit goût à la vie, là où elle l'avait totalement perdue. Elle se retrouve aussi elle-même, là où elle était complètement égarée. C'est une série qui interroge aussi forcément le sens de la peine, le sens de l'incarcération, sur cette question de la dangerosité qu'on retrouve régulièrement dans les débats. Pourquoi enfermer les gens ? Pourquoi remplir les prisons aujourd'hui encore ? Mais c'est aussi un film qui interroge la réparation, la réinsertion de ces personnes. Cet univers-là, il vous concerne, non pas directement ?
Je ne l'ai pas connu de l'intérieur. J'ai rencontré des gens qui avaient fait de la prison. J'ai travaillé avec Brigitte Sy, qui a travaillé en prison avec des prisonniers. Et bien sûr que ça me concerne. Ça me concerne dans le sens où, oui, ça me concerne comme je sais pas, comme les écoles me concernent, comme les hôpitaux me concernent.
En quoi ? Qu'est-ce qui vous intéressait d'explorer à travers ce rôle dans cet univers-là ? Qu'est-ce que vous aviez envie de comprendre, que vous ne perceviez peut-être pas de l'extérieur?
J'ai pas fait ce film comme une missionnaire pour parler des prisons. Enfin, j'ai pas joué dans ce film pour ça. De toute façon, j'ai pas du tout une âme de missionnaire. J'ai joué dans ce film parce que le scénario me plaisait, parce que j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Jean-Marc Condolo, et puis ensuite avec mes partenaires, et puis ensuite avec toute l'équipe et avec le producteur, avec Jean Achric. Enfin, c'était, et ce que j'aimais, c'est que c'était un film à hauteur de personnages. Et qui cherchait pas des choses sensationnelles, c'est une série en 3 épisodes et il y a pas de voilà, on cherche pas des rebondissements extraordinaires, du suspense un peu artificiel. C'est ce qui se passe pour les personnages et même à l'intérieur d'elles et les c'est leurs sentiments qui font avancer les épisodes. Ça me plaisait beaucoup.
Et là, vous incarnez souvent, vous, Noémie Blofsky, des héroïnes très déjantées, des personnages occupés par leurs obsessions, ou des femmes avec un côté un peu mère juive, comme dans Les Beaux Gosses de Riyad Satouf. Ici, vous avez un personnage à habiter, plutôt silencieux, presque éteinte, en tout cas au début de la série, qui petit à petit va se reconstruire. Dans la prison de la santé, entre enfermement et désir d'évasion, il y a Le Trou de Jacques Becker, grand cinéaste humaniste, lui aussi adapté d'un roman de José Giovanni, qu'on entend ici nous parler de l'art du scénario et du cinéma de Jacques Becker.
Becker en a profité pour me dire, puisqu'à un moment donné dans l'histoire, il y a un problème de robinet qui se coince, et que ce robinet, il faut l'arranger. Alors il me dit, puisque plus tard on va se servir du robinet, on va le mettre dans la première cellule, l'histoire du robinet, pour qu'il ne marche pas du tout et qu'on l'échange de cellule. Comme on l'échange de cellule, le trait va arriver dans l'autre cellule. Oui, c'est le cheminement de Becker, comme ça. Comme ça, il expliquait un peu tout. C'était ça, son travail scénaristique. Il était toujours en difficulté, quand il savait qu'il y avait quelque chose à expliquer, il essayait toujours de mettre une raison avant pour que l'explication coule de source, comme ça, et qu'on ne se pose pas de questions. Il me disait, le pire, c'est le spectateur qui se pose des questions qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, au lieu de s'intéresser à ce qu'on lui montre, il a toujours dans sa tête un truc qu'il ne comprend pas. Alors lui, pour ça, il était contre. Il était pour la clarification. Aujourd'hui, tous les scénaristes qui travaillent, et les jeunes, tout ça, ils pourraient se pencher sur son œuvre, ils feraient des meilleurs films, parce que ses films étaient clairs.
Alors est-ce que vous vous êtes penché sur l'œuvre de Becker pour apprendre aussi l'art du scénario? Parce que là, dans ce film, dans cette série, Les Impatientes, vous êtes comédienne, mais vous êtes aussi réalisatrice dans la vie, vous êtes aussi scénariste. Est-ce que Becker a tout inventé en termes de scénario, en donnant aux spectateurs les clés de compréhension?
Ah, ça, je sais pas. Je pense que, enfin, déjà, Le Trou, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film que j'ai revu il y a quelques mois et que j'adore absolument.
En quoi c'est un chef-d'œuvre? Justement parce qu'il nous parle directement, qu'il ne nécessite pas d'efforts de compréhension permanent.
Je le dirais pas comme ça. C'est un chef-d'œuvre de mise en scène. C'est un vertige comme ça sur ces prisonniers qui creusent un trou et nous spectateurs qui sommes comme à travers l'œilleton de la caméra, quoi. Enfin, c'est comme ça, des regards en poupée russe. C'est pas clair du tout, ce que
si,
je viens de dire.
Si, tout à fait. Si. Regardez par le trou de la serrure, presque. Ouais. C'est ça. Ouais. À ça que nous amène le réalisateur aussi.
Après, vous me demandez sur le scénario. Moi, j'ai l'impression que, j'ai fait une école de cinéma et en classe de scénario. J'ai aimé beaucoup mes professeurs, mais l'enseignement n'était pas un enseignement, à l'époque en tout cas, technique. J'ai l'impression qu'en France, le scénario a d'abord, il a un statut bizarre, c'est-à-dire que les scénaristes ne sont pas assez reconnus, je trouve. Voilà. Et c'est une vie de scénariste en France, c'est pas facile. On sont pas assez reconnus par les sous, par l'argent. Et puis oui, souvent on reconnaît pas qu'un scénario peut déclencher des financements, quoi, que c'est la base d'un film. On a comme pas une culture du scénario. Je sais pas pourquoi. Y a des gens qui disent que ça vient de la nouvelle vague qui aurait détruit les scénarios, les scénaristes. Moi, je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense qu'on peut. Je pense que pour les gens de la nouvelle vague, comme pour moi, j'espère, un film se conçoit, se prépare dès le scénario. C'est-à-dire que le scénario est pas seulement la chose écrite, quoi. C'est pas seulement le récit, c'est pas seulement la construction, c'est pas seulement les personnages, c'est aussi déjà la préparation du film. Enfin voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça là, parce que ça me soucie le scénario.
On a une école de scénario, mais pas forcément une culture de scénario. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes passée à la réalisation aussi?
Non, je suis passée à la réalisation. Sur le moment, j'ai cru que c'était par hasard. Parce qu'on me demandait d'écrire un long métrage, mais j'écrivais pas pour un cinéaste. J'écrivais un long métrage pour écrire un long métrage. Et dès que j'étais pas prise dans la vision, dans le regard et dans le monde d'un metteur en scène, je pouvais écrire tout et n'importe quoi. Et du coup, j'écrivais rien. Donc j'ai écrit un court métrage et je me suis sentie l'élan dans lequel j'étais m'a amené, m'a obligé à le réaliser.
Noémie Olfowski est notre invitée jusqu'à midi et demi à l'affiche d'Un peuple et son roi, dont on ne vous a pas encore parlé, de Pierre Scholler, mais aussi des Impatientes, une série télévisée qui sera à voir ce soir, à partir de ce soir, sur France 2. France Culture, il est midi 18.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
D'actrice à réalisatrice et scénariste d'un cinéma qui met en scène les sentiments, le groupe, la féminité, si on devait trouver des points communs à vos réalisations, des intuitions, voire des obsessions. Écoutons.
Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient con.
Bravo !
Merci beaucoup.
Bravo !
Merci, c'était bien.
Merci,
hein.
Chef.
T'es sûr que t'en veux des enfants hyper méga top cool?
Bah ouais.
Je crois pas que t'as assez bu.
T'inquiète pas, je suis dessoulée. Ça m'a dessoulée d'un coup de te voir. Mais tout à coup, je me dis que si tu préfères, on peut tout laisser tomber.
Mais quoi qu'on fasse, ça change rien. Moi, je t'en voudrais toute ma vie.
Pourquoi tu m'en voudrais toute ta vie?
Parce que je t'aime. Parce que je peux pas me passer de toi.
Vous croyez que c'est une manière de traiter les gens comme ça? Vous pouvez pas dire à quelqu'un pendant des années, vous n'aurez pas d'enfant, et ensuite lui annoncer le contraire. Prenez vos patients pour des cons, vous êtes hors la loi.
Homme jeune aimerait rencontrer femme seule pour sortir et discuter.
Homme jeune, vous êtes sûr?
Ben c'est pour pas dire jeune homme, je suis pas un jeune homme, mais je suis un homme jeune.
Elle peut pas partir comme ça, faut qu'elle attende ses parents.
Ils sont morts, mes parents.
Ils ont déjà été prévenus.
Ta mère était folle d'inquiétude.
T'es tellement jeune, papa.
C'est sympa pour moi.
Ah putain, l'année commence bien.
Je viens du futur. Je suis en train de revivre mon passé. J'ai pas 16 ans, j'ai 40 ans.
Lève-toi, y'a école.
J'y vais pas, j'ai déjà donné.
On se connaît?
Qu'est-ce que tu ferais si tu savais toute ta vie à l'avance?
Mathilde, je suis là.
Ta-da!
Maman!
Attends.
Mon oiseau parle.
Il est tard, il faut te coucher.
Bavardez pas trop tous les deux.
Pourquoi tu lui as pas dit bonsoir?
Y'a que toi qui peux m'entendre. Que toi.
Vous allez vous approcher en file indienne, doucement.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques avec cette valise? Maman! Elle est peut-être sortie m'acheter un cadeau.
On est comme deux planètes qui s'attirent, on n'y peut rien.
Tu m'avais jamais dit ça.
Vous êtes la fille la plus étrange que j'ai jamais vue.
Et par ordre d'apparition à l'antenne, Les Sentiments avec Jean-Pierre Bacri, Nathalie Baye, Isabelle Carré, Melville Poupeau, Faut que ça danse, sorti en 2007, Camille redouble, c'était en 2012, Demain et tous les autres jours, L'an passé, Papa, Maman, La famille, La transmission, des thèmes centraux dans votre dernier film aussi, Demain et tous les autres jours, après Faut que ça danse notamment, ce lien mère-fille, mère-fils, père-fils était aussi au cœur de la rentrée littéraire de Christophe Boltanski à Eric Fotorino, de Nathalie Léger et Olivia de Lamberterie à Guy Bollet, qu'on recevra d'ailleurs demain. Pourquoi, d'après vous, avons-nous besoin tous de retrouver cette part d'enfance? Ou est-ce que c'est peut-être le fait que la fiction littéraire, cinématographique, restitue mieux que la réalité cette part d'indicible ou cette figure du parent, du père ou de la mère? Ça permet d'idéaliser.
Peut-être que la vie d'adulte nous pousse à étouffer en nous l'enfance qui reste. Voilà, à l'étouffer, à la tuer parfois, et qu'on a absolument besoin de garder l'enfant qu'on était. On est peut-être toujours un peu. Je ne sais pas si ça vous répond.
Et le cinéma est un bon médium pour la révéler, cette part enfouie.
Oui. Enfin, tout. Pour moi, tout ce qui fait jeu et tout ce qui fait spectacle, oui.
Mais du coup, il sert à projeter, à fantasmer ou à restituer une certaine réalité.
Les deux, mon colonel.
J'adore les deux. Quand vous m'appelez comme ça.
C'est bravo à la personne qui a fait le montage. Ça, c'est beau la radio, j'adore la radio, c'est vraiment beau. C'est beau de retrouver les voix de ces acteurs que j'ai tellement aimés.
Dans votre famille de cinéma, Noémie Lvovsky, il y a aussi Valéria Bruni Tedeschi, je lui mets trop de i, avec qui vous avez notamment adapté Les Trois Sœurs pour Arte, coécrit le scénario d'un château en Italie et que vous avez retrouvé à la dernière Mostra pour y présenter Les Estivants, sa nouvelle réalisation. Est-ce que, comme elle, vous vous appuyez beaucoup sur votre expérience d'actrice pour réaliser?
Oui, sûrement. Mais en fait, j'ai commencé par la réalisation. Enfin, quand j'étais enfant, je rêvais d'être clown, puis j'ai rêvé d'être actrice au théâtre, enfin d'être comédienne au théâtre. Et puis j'ai tout arrêté à 15 ans. J'ai plus voulu rêver à ça, et c'est revenu beaucoup plus tard. J'ai 35 ans passés, je crois. C'est revenu par hasard. Et j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris en filmant Valéria. J'ai fait les deux courts-métrages, pardon, je baragouine, je suis désolée. Deux courts-métrages avec Valéria. J'ai fait mon premier long-métrage avec Valéria. Enfin, je l'ai beaucoup regardé. Je l'ai beaucoup. J'ai énormément travaillé avec elle comme actrice. C'est elle, je crois, qui m'a appris à jouer, si tant est que j'ai appris à jouer. Et puis aussi les grands textes de théâtre que j'aimais tant quand j'étais enfant et adolescente. Je les ai beaucoup lus et j'ai beaucoup rêvé aux personnages de Musset, de Tchekhov, de Molière aussi. Adolescente, ça a fait un travail en moi.
Et elle disait que vous l'avez poussée à aussi tourner son premier film, quand elle commençait à avoir des rôles peut-être un peu moins intéressants, de passer elle derrière la caméra. Vous êtes allée entre femmes à la Mostra. Est-ce qu'il a raison, Audiard, de dénoncer l'absence de femmes pour vous dans et à la tête des festivals?
De dénoncer, non.
De pointer.
Oui, après, je j'étais pas à la conférence de presse pour le film d'Audiard. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu cette année une énorme vague qui nous embarque, et avec des choses qui sont pour le meilleur et pour le mieux en tout cas. Et puis des choses qui moi me vont pas, parce qu'elles demandent ces choses la tête de certains cinéastes que j'aime, et ça me déplaît.
C'est les femmes contre les hommes, c'est comme ça que ça joue pour vous, ou tel que vous le ressentez aujourd'hui?
Il faut surtout pas que ce soit les femmes contre les hommes, surtout pas. Puis j'ai aussi, je vous dis ça parce que c'est des, voilà, ça m'a, je crois, beaucoup travaillé cette année. Et enfin, en fait, en vrai, ça nous travaille tout le temps. Ça a été à vue cette année. Et à la fois, je suis heureuse des progrès qui ont pu être faits et de ceux qui seront faits, et très malheureuse quand ça en passe par des désignations, des accusations, des, enfin voilà, quand on, j'ai pas une âme de révolutionnaire, alors j'ai tendance à penser que peu de choses, voire rien, qui vaille la tête de quelqu'un.
Et pourtant, révolutionnaire, vous l'êtes dans le, dans le film de Pierre Scholler qui sort aujourd'hui en salle, Un peuple et son roi, 1789, la prise de la Bastille, la révolution. Pierre Scholler en a donc fait un film du côté des Parisiens et beaucoup du côté des Parisiennes. Parce que pour la première fois, et y compris au cinéma, on voit vraiment les femmes prendre la parole. On connaît tous les grands noms, les grandes figures de la Révolution. Et là, Pierre Scholler met sur le devant de la scène et de l'écran des femmes qui se battent aussi pour avoir leur voix, un mot à dire dans ce concert des citoyens. Là où un peuple et son roi interrogent le prix de la liberté, la faute et la rédemption, on pourra vous y retrouver, vous, en femme épouse de l'oncle, votre mari, interprété par Olivier Gourmet. Et on retrouve ces thèmes, finalement, qui rejoignent aussi cette série, les impatientes que vous traitez aujourd'hui. Je reste juste sur cette question-là, parce que c'est ce que révèle ce film, Audiard. Il s'intéresse plutôt à la virilité défaillante dans ces films, ou la virilité malmenée par la violence des univers dans lesquels il évolue, vous, à la féminité, on le voit dans Les Impatientes, la féminité entre quatre murs, ou la féminité en construction dans votre film Camille Redouble. Quel est l'enjeu quand même sur cette question pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui se joue en termes de représentation des femmes, des hommes à l'écran, qui vous semble plus important que des mesures d'égalité qui pourraient être prises sur les plateaux, comme annoncé récemment par Françoise Nyssen?
Non, les films ont fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que on peut pas reprocher à Audiard de raconter des personnages masculins, comment vous dites, en défaillance de virilité.
Mais il le dit lui-même, hein.
Mais c'est ça, et c'est intéressant, ouais. Et c'est passionnant, et c'est beau. Voilà, ça, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a besoin de raconter. Il va pas pour des raisons, qui serait pas essentiel et je sais pas organique, enfin bon, je sais pas quel mot utiliser, et parler d'autre chose. Donc non, les mesures me paraissent plus importantes. Que les films sont pas des drapeaux, enfin des porte-drapeaux. Les films ils racontent ce que les cinéastes ne peuvent pas s'empêcher de raconter, et ça, voilà, ils sont pas, ils n'ont pas de mission autre, enfin en tout cas pour moi, ils n'ont pas de mission autre que d'être du spectacle, et de en même temps que d'être du spectacle, de raconter le monde et les gens, mais tel que vu par les cinéastes, quoi. C'est toujours forcément très personnel et on choisit pas.
C'est déjà fini. Merci Louis Mimlowski. Merci, on vous libère, vous. Du coup les portes du studio vont se rouvrir, plus simplement que celles d'une prison. Merci mille fois à vous, Les Impatientes, ce soir à voir sur France 2, Un peuple et son roi, le nouveau film de Pierre Scholler dans lequel vous êtes très très bien entouré aussi avec des grands nombreux comédiens, est en salle à partir d'aujourd'hui. Merci à vous.